J'ai identifié 7 choix que nous faisons et qui nous minent le moral. 7 choix que nous faisons malheureusement plusieurs fois par jour pour certains d'entre nous. Donc, je vais vous les préciser et surtout les mentionner pour que nous ayons envie, que vous ayez envie de faire autrement que ce que vous faites d'habitude. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je vous accompagne pour que vous viviez votre vie en mieux. Salut, ravi de vous retrouver pour ce podcast dans lequel on va encore toucher à du concret pour ne pas changer avec les 7 choix qui minent notre morale. Je ne vais pas introduire davantage le sujet en me plongeant directement dans ces 7 choix parce que je pense que c'est vraiment important qu'on puisse en prendre la mesure, en prendre connaissance et puis surtout envisager de vivre une vie en pleine conscience, en pleine présence. Alors j'ai déjà enregistré un podcast sur la pleine présence, mais plus en phase avec ce que nous voulons pour ne pas être de ceux et celles qui subissent davantage qu'ils ne sont dans l'action. Premier choix, c'est celui qui consiste à se dénigrer et à dénigrer les autres. En général, comme vous le verrez pour les 6 autres choix que je vais vous présenter, ce que nous faisons avec les autres, nous le faisons avec nous, et vice-versa. Parfois, nous le faisons de manière inversée, ça veut dire que nous supportons avec les autres de choses que nous ne supportons pas du tout chez nous, ou bien nous supportons pas du tout chez les autres des choses que nous supportons chez nous. Donc on est dans une sorte de difficulté pour identifier les raisons pour lesquelles on est dans ce genre de fonctionnement. Sans accompagnement, en tout cas thérapeutique, il est difficile d'identifier les causes. Mais je voudrais quand même, déjà pour ce premier point, rappeler que notre difficulté à envisager une relation qui soit exempte de moquerie, de dénigrement, de rabaissement de l'autre, peut avoir pour effet de nous miner le moral. Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'intention première qui consiste à dénigrer et à critiquer un autre est de se donner à soi-même l'impression qu'on est mieux, qu'on fonctionne mieux, que lui ne va pas bien et que si on mettait une échelle de valeur, sa valeur serait légèrement moindre. Seulement, vous avez remarqué que ce sont les personnes qui sont mal dans la relation avec elles-mêmes qui prennent du temps pour dénigrer les autres. Et par conséquent, quand elles se retrouvent seules, elles prennent conscience de leur habitude ou de leur travers à dénigrer et se flagelle finalement, s'auto-flagelle en se disant, même si c'est parfois loin d'être conscient, qu'elles sont minables et qu'elles auraient mieux fait de penser autrement, de formuler les choses autrement, qu'elles ont peut-être été trop dures, injustes, etc. Parfois, le dénigrement, ou plutôt l'auto-dénigrement vis-à-vis de soi, peut paraître aussi une manière de gérer une forme de justice en se disant que finalement, je suis incapable, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, etc. Eh bien, ce n'est pas une forme de justice, c'est une sorte de harcèlement, une forme de harcèlement. Et j'aime bien utiliser la proposition qui consiste à inverser le fonctionnement en proposant de discourir vis-à-vis d'un ami, d'un proche, d'une personne que l'on aime, comme on le fait avec soi-même, pour se rendre compte que finalement, on est assez gêné généralement. Je l'ai fait cette semaine avec une personne que j'accompagne et qui me disait qu'elle se trouvait minable, je ne sais plus exactement quel est le vocable qu'elle employait, et je lui ai proposé de me dire à moi, Pascal, tu es minable. Vous imaginez la difficulté qu'elle a eue à le formuler, la gêne même, rien qu'à l'idée de le formuler. Elle m'a dit, je ne peux pas le dire, parce qu'en plus, c'est faux. Ce à quoi j'ai répondu, mais en quoi sais-tu que c'est faux ? Vous voyez, la difficulté à dénigrer quelqu'un peut être parfois radicalement opposée à la facilité que l'on peut avoir à se dénigrer soi-même. Je rappelle que cette démarche qui consiste à se dénigrer et à dénigrer les autres est une manière de se donner de l'amour, même si en apparence ça ne ressemble pas du tout à une déclaration d'amour. C'est une manière de se sauver, de sortir la tête de l'eau, de se donner l'impression que finalement, on vaut quelque chose. Et ça nous fait glisser doucement vers le deuxième choix qui nous mine le moral, qui est de se comparer aux autres. Alors, pourrait-on dire aisément, quand on se compare en se considérant comme inférieur aux autres, moins bien, moins bon, moins compétent, moins beau, moins grand, moins ceci et moins cela, évidemment, ça paraît évident à tout le monde qu'il s'agit là d'un choix qui contribue à miner le moral de la personne qui se dénigre, qui se compare en infériorité. Mais ce que nous ignorons, c'est que la comparaison vers la supériorité n'est pas en reste. Elle ne participe pas non plus particulièrement à embellir, à améliorer l'image de soi de manière systématique. Ça peut fonctionner, mais ça fonctionne davantage quand il s'agit d'une comparaison ascendante. Ça veut dire qu'on va se placer en situation comme si on avait atteint un niveau particulier, alors qu'on n'y est pas encore, comme on va miser dans une forme d'aspiration entre le fantasme du résultat de « je serai capable et j'aurai telle et telle compétence » en comparaison avec ce que je vis maintenant. Si vous allez fréquenter un club de football dans lequel jouent des enfants, on pourrait tendre le micro à l'un et à l'autre pour leur demander quel genre de footballeur ils voudraient être. Et nous ne serions pas surpris d'entendre des noms sortir, et non des qualificatifs. Je voudrais être comme un tel, ou je voudrais jouer comme un tel, dribbler comme un tel, et non pas être moi avec les acquisitions de compétences, voyez ? Déjà dans l'enfance, on est dans cette comparaison ascendante, d'ailleurs c'est ce qui fait que l'enfant a envie de marcher, d'écrire, de maîtriser, d'acquérir des compétences. Ce fonctionnement continue à être présent dans la vie adulte, avec cette comparaison ascendante, qui est tout à fait saine, parce qu'elle nous tire vers le haut. Par contre, quand on s'estime au-dessus de l'autre, et qu'on écrase l'autre, on est dans la fréquentation assez proche de ce qu'on a évoqué dans le premier choix. Et on s'abîme soi-même. En fait, j'aimerais qu'on comprenne sur le plan rationnel qu'il est impossible de comparer deux êtres humains. Ils n'ont pas commencé à courir à partir de la même ligne de départ. Et même s'ils démarrent sur la même ligne de départ avec les starting blocks, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, ils n'ont pas la même taille, le même poids, etc. C'est la raison pour laquelle, notamment dans un sport comme la boxe ou le judo, on va travailler sur des poids équivalents, des poids plumes, des poids moyens, des poids lourds. Et même dans les poids lourds, on est sur une fourchette. On ne va pas faire uniquement combattre quelqu'un qui fait 103 kilos avec quelqu'un qui fait 103 kilos et qui mesure 1m83 alors que l'autre mesure également 1m83. Il est possible que dans la catégorie des poids lourds, on ait quelqu'un qui pèse 103 kilos et l'autre 120. Un qui mesure 1m97 et l'autre 1m90. Et vous voyez que finalement, il n'est pas possible de comparer. C'est comme si je vous demandais de prendre deux feuilles de chêne et de les comparer l'une à l'autre pour voir laquelle est la meilleure, laquelle est la plus belle. Vous pourriez peut-être me dire laquelle est la plus grande. Mais laquelle est la meilleure pourrait vous prendre une énergie folle pour vous retrouver dans une voie sans issue. Le troisième choix que je cible aujourd'hui, c'est celui qui consiste à faire un avec ses émotions. Je suis en colère, j'ai honte, j'ai été rejeté, je suis humilié, et finalement vous avez noté que je suis dans une formulation en « je suis » ou dans « j'ai », et quand j'ai honte, ben finalement la honte c'est presque moi, hein, je suis presque transformé en cible de honte ou en boule de honte. Donc qu'il s'agisse d'un « j'ai » ou d'un « je suis », on peut parfois faire tellement corps avec son émotion qu'on est incapable de se rendre compte qu'en fait l'émotion se manifeste suite à une manifestation biochimique intérieure, mais qu'elle peut être distancée d'avec le « je suis ». Je peux ressentir de la honte sans être envahi par la honte. Ceci étant, c'est par l'entraînement, par l'apprentissage, avec un accompagnement. La plupart du temps qu'on arrive à faire ce travail, on ne le fait pas comme ça spontanément tout seul. Je ne connais personne qui m'ait dit, ben un jour je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait quand je suis en colère, ce n'est pas moi qui suis en colère, je ressens de la colère, et la colère est dissociable de ma personne, ce qui signifie que, fort de cette prise de conscience, je suis en mesure maintenant de regarder ma colère en face, de discuter avec elle et d'apprendre ce qu'elle a à me dire. Et par conséquent, je parviens à utiliser ma colère à bon escient pour mon avantage et pour l'avantage collectif. Peut-être que je vous ai parler chinois, là, ou arabe pour ceux qui parlent chinois. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas en capacité spontanée de prendre conscience de cette réalité-là. Ceux qui sont les pionniers de cette manière de fonctionner, de penser, qui sortent tous des milieux de la psychologie, ont travaillé, ont réfléchi, ont observé, ont eu des centaines de patients devant eux avant d'arriver ce résultat ou ce résultat constat que l'émotion, quand elle fait un avec l'individu, il s'en trouve prisonnier, comme s'il était écrasé par son émotion et qu'il en perdait le contrôle finalement. Une baisse de sentiment de liberté, une baisse d'estime de soi, une baisse de sensation de bonheur et de développement personnel. Par conséquent, faire un avec son émotion est un choix qui mine le moral. Le choix suivant que je vous présente, c'est celui qui consiste à lutter contre soi-même. comme je me fais bouffer par mes émotions et que j'ai des émotions négatives, je vais veiller à ne pas avoir d'émotions négatives. Je ne veux pas avoir de mauvaises habitudes ou des vices. Je veux éviter les addictions, donc je vais lutter contre mes addictions. Et finalement, quand on rentre dans cette démarche, on lutte, on passe son temps à lutter contre soi-même. C'est du gaspillage énergétique. Je vous invite à sortir de cette approche pour plutôt opter pour lutter pour. Mieux vaut lutter pour quelque chose que contre quelque chose. Et mieux vaut lutter pour soi que contre soi. Parce qu'en fait, quand on lutte pour, on gagne, on récupère, on s'enrichit. Quand on lutte contre, à part l'énergie que l'on dépense, on récupère rien du tout. Les choses s'arrêtent. On va chercher à briser quelque chose. On va chercher à empêcher quelque chose. Mais pas à construire quelque chose. Je préfère de loin que nous luttions pour. Je m'arrêterai ici puisque j'ai déjà enregistré un podcast sur le sujet pour lequel je mettrai le lien dans la retranscription de ce podcast pour que vous puissiez y accéder rapidement. Cinquième choix qui nous mine le moral, c'est de se sentir coupable ou est redevable. Alors me dira-t-on, la culpabilité a du bon. Oui, elle a du bon quand on sait l'utiliser, quand on sait la lire. Mais combien de fois je perçois que nous avons une culpabilité à tort. Nous nous sentons coupables pour des choses pour lesquelles nous ne sommes pas coupables. Et là encore, sur Heureux au présent, j'ai enregistré un podcast dans lequel je vous donne une équation afin de savoir si vous êtes coupable. Allez écouter ce podcast. Encore une fois, je mettrai le lien dans la retranscription de ce présent podcast pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Donc, coupable ou redevable, disais-je. Redevable de quoi ? À qui devez-vous quelque chose ? En général, on se sent redevable quand on se sent coupable. Vu ce qu'il a fait pour moi, je suis censé faire ceci ou cela. Vu ce que ma mère a fait pour moi, je lui dois ceci ou cela. Petite allusion à une personne que j'accompagne et qui peut-être s'est reconnue. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de s'affranchir de cette culpabilité et de cette redevabilité quand nous ne sommes ni coupables ni redevables. Peut-être avez-vous une difficulté à identifier pourquoi vous n'êtes pas redevable. Et si c'est le cas, faites-vous accompagner, parce que vous avez très peu de chances de réussir à identifier les raisons pour lesquelles c'est comme ça en spontané. Mais peut-être si vous utilisez votre cahier de vie, cela vous aidera-t-il à identifier les raisons pour lesquelles vous vous sentez redevable et comment déverrouiller cette redevabilité pour vous affranchir et revivre la liberté, la légèreté de la vie qui s'ouvre devant vous. Le sixième choix qui nous mine le moral, c'est le choix qui consiste à chercher à ressentir de la satisfaction dans des actions quelconques. Et je sais que notre, je dirais, société consumériste pousse dans cette direction. Elle cherche à nous donner l'impression que dans ce que nous faisons, nous devrions en permanence ou quasiment systématiquement être satisfaits, nous développer, nous épanouir, avoir du plaisir. Et ce genre de choix est contraire à la réalité, tout simplement, à une approche rationnelle. Vous n'avez pas de plaisir quand vous lavez la vaisselle, quand vous faites votre lessive, que vous l'étendez. Vous n'avez pas de plaisir quand vous donnez un coup de main à votre conjoint ou quand vous aidez votre enfant à vos devoirs. Vous n'avez pas de plaisir quand vous vivez certaines tâches professionnelles ou que votre collègue vous demande un coup de main pour faire quelque chose. Ne vous sentez pas coupable ou bizarre en n'ayant pas de plaisir. Personne n'a promis que le plaisir devrait être partout. C'est vrai que la surabondance de la dimension ludique nous donne l'impression aussi qu'on devrait avoir du plaisir. Et comme j'ai parlé de la société de consommation, elle nous fait penser ou croire que passer par l'acte d'achat, d'acquisition, de possession nous permettra d'accroître notre bonheur, alors qu'en réalité, elle nous permet d'accroître notre plaisir, je le rappelle, et pas notre bonheur. Or, le bonheur et le plaisir ne sont pas forcément en côtoiement, comme je le répète régulièrement aux personnes que j'accompagne. Un des travers de cette démarche, qui consiste à chercher à ressentir et donc de la satisfaction, qui veut dire du plaisir, est que ça peut nous conduire à ne pas aimer faire un effort. Et puis ça peut nous conduire aussi à attribuer un rôle à la chance, en fait. Bah oui, j'ai de la chance parce que... Alors qu'en réalité, le résultat satisfaction ou bonheur, à supposer que ça puisse être un résultat, mais qui peut être vécu dans le cheminement également, devrait davantage être le fruit, selon moi, d'efforts, d'un travail. Oui, le bonheur nécessite un travail. Et je le dis aussi pour les couples. Chaque couple que j'accompagne, à qui je dis qu'il n'y a pas de bonheur conjugal durable sans effort, ouvrent les yeux tout grands, comme deux amis qui se déchirent et qui découvrent qu'ils ont à faire un effort pour construire leur amitié. Le septième choix qui nous mine le moral, c'est un choix qui consiste à nourrir notre esprit de mauvaises choses, je dirais de manière générique. J'entends bien que dans la notion de mauvaise, il y a un jugement, mais en fait, chacun est responsable d'identifier ce qu'il estime être bon ou mauvais pour lui, bénéfique ou ennuyeux pour sa propre vie, je dirais même peut-être maléfique, comme j'aime l'employer aussi, même si ça a une connotation parfois un peu étrange, mais faire des choix qui sont néfastes pour soi. Se nourrir de mauvaises nouvelles, se nourrir de valeurs fake, les choses qui ne sont pas vraies, qui ne tiennent pas la route, se nourrir de convoitises, de désirs, d'aspirations à des choses qui ne correspondent pas à notre vision de la vie, ignorer sa vision de la vie et préférer vivre la vie d'un autre en se nourrissant également encore mentalement de choses qui correspondent à ce que voudrait vivre un autre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le slogan « Vivez votre vie en mieux » pour heureux au présent. Et puis se nourrir de mensonges, utiliser le mensonge qui revient au podcast de la semaine dernière « Comment arriver à moins mentir ». Avec ces sept choix qui nous minent le moral, vous avez un panorama de sept domaines dans lesquels vous pouvez avoir besoin de travailler. Mais lequel, d'après vous, serait le domaine à privilégier? Eh bien, ça dépend de chacun d'entre vous, en fait. Vous avez un parcours, un point de départ qui diffère, vous avez des blessures, des forces qui diffèrent, vous avez une perception et une vision de la vie qui diffèrent les uns des autres et qui fait que je ne pourrais pas vous dire que vous avez tous à travailler sur le point 3 prioritairement ou sur le premier ou sur le septième. La liberté vous appartient à chacun d'identifier dans une prise de conscience là où vous avez besoin de commencer à travailler. Alors je vous les redis tous de manière à ce que vous puissiez commencer peut-être à vous inscrire davantage dans un des choix plus que dans d'autres, se dénigrer et dénigrer les autres, se comparer en se mettant au-dessus des autres ou en dessous des autres, faire un avec ses émotions, lutter contre soi, se sentir coupable ou redevable, chercher à ressentir de la satisfaction dans des actions quelles qu'elles soient et nourrir son esprit de choses qui sont vraiment mauvaises pour soi-même. Voyez. Faites le point et surtout, s'il vous plaît, passez à l'action. Alors, je ne veux pas m'arrêter aujourd'hui sur des moyens de donner l'importance à l'action, parce que dans le podcast numéro 253 qui s'intitule « Le pouvoir des actes » et dans le 254 qui suit « Comment allier action et émotion », et puis même dans le suivant d'ailleurs, 255 « Acheter des émotions », j'ai pris le temps de vous donner des éléments pour vous dire que ce n'est pas seulement de savoir quel est le choix qui vous mine le moral prioritairement qui va faire que votre vie va changer, mais de passer à l'action. Alors, une des actions que vous pouvez faire, c'est, si vous n'avez pas réussi à faire le clair dans tout cela, allez sur le blog Heureux au présent, go, je passe à l'action pour prendre rendez-vous. Vous avez 30 minutes offertes. Ou bien, prendre directement rendez-vous dans Prends rendez-vous vers le bonheur, et là, je vous accueille directement pendant une heure. Vous pouvez également prendre votre cahier de vie ou un papier libre si vous ne savez pas ce qu'est un cahier de vie et prendre le temps d'écrire les 7 choix qui nous minent le moral et de commencer à travailler pour savoir quel est celui qui vous mine le plus le moral ou quel est celui sur lequel vous avez besoin de travailler en priorité. Vous pouvez aussi mettre ces 7 choix en les listant et en les mettant auprès de vos potes, de vos amis, de vos collègues, de membres de votre famille en leur demandant de cocher, en mettant 1, 2, 3 par exemple sur ces 7-là, celui qui est, selon eux, en priorité, en deuxième position ou en troisième position dans votre vie et pour lequel ce serait judicieux que vous commenciez à travailler pour changer votre manière de percevoir votre implication sur le choix qui viendra en tête de liste, parce que vous verrez que grâce à cette enquête, je dirais, spontanée auprès de votre entourage, il en sortira quelque chose qui vous permettra d'avancer. Je vous laisse travailler là-dessus et s'il vous plaît, passez à l'action. Faites là, aujourd'hui, le choix de solliciter votre entourage de manière à avancer. Si vous n'avez pas réussi seul à identifier cela, prenez rendez-vous en ligne avec moi pour que nous puissions travailler ensemble, pour que vous puissiez construire votre bonheur pour vivre votre vie en mieux. Avant de se laisser, je vous rappelle que vous avez les commentaires, les remarques, vos questions à poser sur le blog Heureux au présent ou sur quelques plateformes de podcast que vous utilisez, et puis mettre vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux pour continuer à valider, valoriser le travail qui est fourni ici sur Heureux au présent, sachant que mes deux plateformes préférées sont Apple Podcast et Google Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.